Et bonjour à tous, invités de votre grande table culture aujourd'hui, un réalisateur romantico-libertin et une marquise qui joue la comédie. Pour Emmanuel Mouret, déjà une filmographie séduisante, Un baiser s'il vous plaît, Fais-moi plaisir, L'art d'aimer ou encore Caprice. Et pour Cécile de France, un rôle à sa démesure. Mademoiselle de Jonquière sort en salle mercredi. En attendant, Emmanuel Mouret et Cécile de France sont nos invités à écouter tout de suite sur France Culture ou à retrouver plus tard sur franceculture.fr. Puis à partir de 12h55 dans la deuxième partie de l'émission, celui qui nous alerte depuis 2013 sur la multiplication des jobs à la con. Il sera l'invité de la grande table des idées. L'anthropologue américain David Graeber revient preuve à l'appui avec ce livre Bullshit Jobs qui paraît aux éditions Les Liens qui Libèrent. Bienvenue à tous, nous sommes lundi, heureuse de vous retrouver.
La grande table. Olivia Gesbert.
Avec nous, celui qui a dit aimer observer les femmes de près, Emmanuel Mouret, bonjour.
Bonjour.
Et celle qui a dit jouer en costume, c'est un rêve de petite fille. Bonjour Cécile de France.
Bonjour.
Bande annonce ? Bande annonce.
Marquis, que vous importe que mon nom apparaisse dans la liste de vos conquêtes ?
J'ai bon espoir.
Son orgueil est tel qu'il n'ose rentrer à Paris sans avoir vaincu sa proie.
Dois-je comprendre que vous vous êtes abandonné au marquis ?
Toutes les passions ne se ressemblent pas. La nôtre est intense, sans être excessive. Et nos sentiments sont aussi pleins de tendresse que de raison. M'est-il possible de connaître ces pensées qui m'éloignent de vous ?
J'ai peur qu'elles ne vous fâchent autant qu'elles me fâchent.
Vous vous souvenez de Madame de Jonquière ?
Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais elle n'a aucun esprit de libertinage.
Pourquoi le marquis s'attacherait-il à cette fille alors qu'il ne s'attache à aucune autre ?
Parce que le marquis ne résiste pas à ce qui lui résiste.
Madame, rendez-moi un service.
Lequel ?
Ayez compassion de moi. Je veux la revoir.
Si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société ?
Et oui, malgré son expérience et les mises en garde, Madame de la Pommeraye cède aux avances d'un marquis libertin notoire. Au bonheur succédera la lassitude, il la délaisse, toujours amoureuse et blessée de ne s'être trop méfiée. Madame de la Pommeraye fait de l'innocente, Mademoiselle de Jonquière, l'instrument de sa vengeance. Dans cette histoire, Emmanuel Mouret, où est le vice et où est la vertu ?
Eh bien, justement, c'est...
c'est la question.
C'est une question qui est... Que le récit s'amuse à poser tout au long. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de rebondissements là-dedans. Je pense que c'est ce qui m'a en grande partie séduit en l'adaptant.
Et vous, cette question, vous vous la posez ou vous l'êtes posée en adaptant ce texte ? On va revenir sur l'inspiration Diderot aussi pour cette Mademoiselle de Jonquière. Est-ce que vous chercher un curseur à ces questions morales qui peuvent se poser, où est le vice, où est la vertu ?
Ben, je pense que le grand intérêt du cinéma, c'est d'interroger nos usages et d'interroger du coup notre morale. Mais évidemment, je me garderai de donner toute réponse ferme et définitive là-dessus.
Et Cécile de France, qui est la victime et qui est le bourreau dans ce film ?
Ah, c'était très complexe pour moi, c'était un vrai dilemme. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai toujours un rapport très fraternel avec mon personnage. Donc à la fois, je la défendais parce que c'est quelqu'un qui souffre énormément. Elle est enfermée d'ailleurs dans cette douleur. Qui utilise des arguments qui coïncident avec nos préoccupations d'aujourd'hui. Hein. Elle défend la cause des femmes, elle veut corriger les hommes, venger son sexe. Et en même temps... Elle manipule et elle n'hésite pas à détruire d'autres femmes pour satisfaire sa vengeance. Et pour moi, c'était compliqué. J'en suis venue à me dire qu'en fait, elle est victime avant tout d'une société patriarcale où, en ayant grandi dans un monde où les valeurs masculines dominent, où il faut se durcir, se couper de ses émotions, finalement, elle s'est prise au jeu de cette dureté. Et ça l'a du coup mené à pas se rendre compte de la souffrance qu'elle fait subir à ces deux femmes désargentées.
Est-ce que vous diriez l'un et l'autre que c'est plutôt un film sur la vengeance, sur ce sentiment de la vengeance, ou plutôt un film sur les stratagèmes qu'un cœur amoureux ou désamoureux met en place dans ce contexte-là ?
Moi, je pense que c'est plus, oui, effectivement, observer l'être humain. Je pense que Emmanuel Mouret et Denis Diderot sont un peu comme des scientifiques amoureux. Ils observent comme ça, comme ils observeraient des micro-organismes qui, sous l'influence de l'amour et des conflits, justement, entre voilà, le goût des plaisirs et la morale, par exemple, ce qui va se passer dans le corps, dans les esprits et les réactions en chaîne que ça peut provoquer.
Alors, ce texte de Diderot a été traduit par la suite par Schiller en allemand sous un titre qui en dit long, Exemple singulier de la vengeance d'une femme. Quel va être l'outil de sa vengeance, Cécile de France ?
L'outil de ma vengeance, c'est j'ai un appât magnifique qui est donc Mademoiselle de Jonquière, qui est interprétée par Alice Isaz, qui se trouve être d'une beauté éblouissante, qui est tout droit sortie d'un tableau de Fragonard, par exemple, et qui, heureusement, a aussi un tempérament très fort et qui va être une silhouette qui ne parle pas beaucoup, comme ça, pendant les trois quarts. Et puis, tout d'un coup, je ne vais pas trop en parler, mais on se rend compte qu'elle est faite de chair et d'os et d'idées profondes et qu'elle a des choses à dire et qu'il y a un vrai retournement qui nous trouble beaucoup. Et ça, c'est intéressant, c'est original.
Et l'objet ou le sujet de la vengeance, c'est Édouard Baer en Marquis des Arcis. Son personnage, il dit « La foule m'ennuie, la solitude aussi, et j'ai trouvé ma société, la plus parfaite des sociétés, qui constitue un homme et une femme qui s'aiment. » Que constitue, pardon ? Oh là là, si j'égratigne le texte, vous n'allez pas me le pardonner, Emmanuel Mouret. C'est un libertin pur jus, ce Marquis des Arcis, qui place le plaisir avant tout, mais avec une vraie sincérité, finalement, dans sa démarche.
Hein. Oui,
il est transparent.
Il est loin d'un Don Juan ou d'un Valmont. C'est pas un calculateur. C'est pas un menteur, c'est un libertin, on va dire, assumé, pensé, réfléchi. Et comme il le dit très, très bien lui-même, il séduit parce qu'il est séduit. C'est le fait d'être séduit qui lui donne en tout cas tout cet enthousiasme qui le porte à vouloir en tout cas posséder la personne qui l'a... Vous m'avez compris.
J'essaye.
Je cherche mes mots.
Non. Mais c'est quand même un égoïste aussi, au-delà de tout ça, peut-être, non ?
Oui, un égoïste, certainement. Je porte pas de jugement, parce que c'est vrai, qu'est-ce que... De désirer quelqu'un, ça nous engage. Est-ce que désirer quelqu'un, c'est être égoïste ? Peut-être. Alors là, vous me posez une question à laquelle je ne sais absolument pas quoi répondre.
Non, mais il ne voit pas non plus la souffrance qui peut s'installer en Madame de la Pommeraye. Il ne voit pas l'effet de ses promesses. Vous pensez que si ?
Oui, mais je pense que c'est plus compliqué dans l'histoire, parce qu'ils ont vécu une véritable histoire. Il y a une ellipse dans le film. On a vu un arbre pousser, donc on peut imaginer qu'il s'est passé quand même quelques années. Et puis... Madame la Pommeraye a sondé son cœur aussi d'une façon très particulière, puisque elle, pour savoir s'il aimait encore, elle lui fait croire qu'elle ne l'aimait plus. Et donc, ce n'est pas lui qui est venu lui annoncer qu'il ne l'aimait plus.
Exactement, mais ça a libéré sa parole à lui. Votre film, Mademoiselle de Jonquière, est inspiré de Jacques le Fataliste, l'œuvre donc la plus adaptée ou commentée de Diderot, dont l'histoire de Madame de la Pommeraye est un des récits à l'intérieur. Pour comprendre, vous êtes reparti du texte, du mot de Diderot, et vous avez entièrement réécrit l'histoire ?
Je suis en général, ce qu'on adapte, c'est la trame. Ça serait menteur. On peut pas prendre le génie littéraire d'un auteur. Donc, je suis parti véritablement de la trame dramatique. Et puis, en effet, je me suis permis et des excroissances, des parties que je voulais particulièrement peut-être développer, puisque j'y ai projeté aussi des obsessions ou des préoccupations. Et quant au dialogue, c'est vrai que j'ai essayé de faire la plus grande part possible, en tout cas au dialogue, puisque si on rassemble le récit, c'est comme une grande nouvelle. Donc j'ai essayé de conserver le maximum de dialogues de Diderot. Et puis j'ai dû en effet en composer un certain, voilà, une grande partie dans l'esprit.
Et c'est une très belle langue que vous mettez aussi à l'écran, un texte qui est assez fort, on n'imagine pas si évident à apprendre, parce qu'on se retrouve dans toute cette langue du 18e que vous avez réadopté, Emmanuel Mauret. Comment mettre en valeur ce texte à l'image? Ça a été une question pour vous de faire un film qui ne soit pas trop littéraire, mais qui laisse quand même la place aux mots?
En tout cas, il ne s'est jamais posé une question de rendre un texte par rapport, on va dire, à l'image. C'est que la première chose qui restitue un texte par rapport à l'image, c'est l'interprétation des comédiens. Donc ça a été, le premier et le plus grand des soucis, donc de réunir une distribution qui le porte. Et d'ailleurs, on se pose pas de questions, puisque je trouve chez Cécile, comme chez Édouard et chez les autres comédiens, un naturel. Donc on a en revanche beaucoup travaillé avec Cécile, notamment parce que elle a, on va dire, la partition la plus ample et la plus complexe du film, et on s'est beaucoup préparé. Après, à l'image, à la mise en scène, c'est vrai que je voulais pas un film, on va dire, plan-plan, qui soit un film champ contre champ, et on a privilégié, en tout cas, de faire beaucoup de plans-séquences, voilà.
Et d'accepter et d'assumer à travers ça aussi la théâtralité de ce récit, de cette histoire d'une certaine manière. Diderot a inventé le cinéma, c'est ce qu'a écrit Jean-Claude Bonnet, un spécialiste du 18e fort reconnu. Avant l'invention technique de celui-ci, Diderot a défini le principe de son exercice et les traits fondamentaux de son esthétique. Vous retrouvez ça aussi dans ce texte de Diderot?
Alors, je connaissais pas en tout cas cette citation. Ce qui est clair, et c'est pas tant par rapport en tout cas à ce film particulier, il y a ce passage de Jacques le Fataliste et son maître, mais c'est vrai que Jacques le Fataliste et son maître, pour moi, a été, on va dire, un texte, un roman qui ne m'a jamais quitté, même quand j'écrivais. Le fait de penser à Jacques le Fataliste, ça m'a toujours donné, on va dire, des solutions de scénario. Des solutions justement, notamment de raccourcir, d'aller à l'essentiel de ce qui nous préoccupe. Et la liberté du récit et en même temps sa joie, son côté ludique, et sa profondeur, pour moi, en fait une œuvre vraiment à part.
Car elle autorise peut-être aussi un cinéma libre, là encore.
Il autorise un cinéma libre, mais surtout un cinéma qui est aussi pas prétentieux, un cinéma, il y a une liberté dans le ton de Diderot qui est unique.
Diderot, un moraliste, mais pas moralisateur. Quelle est pourtant, à vos yeux, Cécile de France, la morale de l'histoire?
Mais justement, il n'y en a pas. Hein, contrairement à un film américain qui serait plutôt manichéen, on ne juge pas les personnages. Il faut de tout pour faire un monde. Hein, donc non, moi je... Après bon, Diderot était un homme du peuple, donc à choisir effectivement. Au début, il est beaucoup avec Madame de la Pommeraye, qui est très digne, et dans sa souffrance, il est en empathie avec elle. Mais en tout cas, Emmanuel a appuyé un petit peu plus là-dessus peut-être que Diderot. Mais au fur et à mesure du récit, c'est quand même l'homme du peuple qui va choisir son camp. Entre cette aristocrate blessée et cette jeune femme désargentée manipulée, va quand même choisir Mademoiselle de Jonquière.
Même si sa vengeance a abouti, l'affront n'a qu'à demi été réparé pour elle et sa douleur reste entière, voire plus vive encore. Madame de la Pommeraye le dit, mon entreprise est en deçà de ma douleur. Mais on peut quand même se dire qu'elle y est allée, elle a aimé malgré tout. Elle est allée au-delà de ses réserves, elle a dépassé sa lucidité ou sa connaissance de ce qu'était ou de ce qu'était cet homme et de sa réputation, elle a fini par se donner. Il y a ce très bel échange de confidence avec son ami dans les jardins du film où l'ami lui dit qu'elle commence presque à l'envier parce que sa trop grande prudence à elle ne lui permettait pas de se donner, que son vilain caractère l'empêche de s'abandonner et pousse à faire la leçon à tous alors qu'elle ne peut rien enseigner parce que finalement elle n'a goûté à rien. On ne peut jamais enseigner ces choses-là, finalement. Il n'y a que des expériences.
Vrai qu'à l'époque, on enfermait les femmes dans des cases. Et il y avait notamment la case des frivoles. la case des femmes raisonnables dans laquelle se trouve enfermée Madame de la Pommeraye. Et donc, de vivre cet amour au grand jour avec ce libertin, c'est déjà s'affranchir du jugement des autres, du qu'en dira-t-on, qui était très pesant à l'époque. Et elle se libère une deuxième fois en décidant de ne pas être une victime, en décidant de refuser justement les scénarios d'une société patriarcale et de reprendre sa vie en main, de se venger. C'est une manière pour elle d'agir finalement, de ne pas subir, même si évidemment, encore une fois, elle est aveuglée par sa blessure. Mais c'est vrai que c'est une femme libre. Et en ça, Madame de Merteuil aussi, on peut retrouver cette même volonté de se libérer de cette société machiste et de ses contraintes. Ouais.
Jouer avec les apparences, respecter les conventions, en tout cas, à voir.
Mesdames, la voiture du marquis approche.
Madame, le marquis des Arcis me demande de l'annoncer.
Il est là. Faites-le entrer. Je lui ai dit d'être tout surpris de vous trouver ici et de faire des manières avant que d'accepter mon invitation à se joindre à notre dîner. Voyons ses talents de comédien. Manger. Marquis, vous ici.
Madame, je ne savais pas que vous donniez à dîner, je ne suis même pas habillée. J'étais passé visiter les terres d'un ami qui souhaite s'en débarrasser non loin d'ici, et sur le chemin du retour pour Paris, je me suis dit que si j'étais dans la région, que vous l'appreniez et que je ne passais pas vous saluer, j'encourrais quelques reproches.
Vous avez bien fait, Marquis, vous êtes le bienvenu. Connaissez-vous Madame de Jonquière et sa fille? Oh, les auriez-vous oubliés? Nous les avions croisés lors d'une promenade au jardin du roi.
Non, je me souviens. Mesdames, je ne voudrais pas déranger plus longtemps une telle réunion, permettez-moi de me retirer.
Vous partez, Marquis.
Je crains d'être importun, madame.
Et s'il me venait de me sentir vexée de vous voir partir si vite?
Madame, vous vexez la dernière chose que je souhaiterais.
L'amour, ce lieu commun, ce cliché, Emmanuel Mouret, que vous aimez tant aborder, disséquer, observer, scruter. Est-ce que vous êtes dans la vie, vous aussi candide que les personnages que vous incarnez dans vos films, les précédents, parce que là, vous n'apparaissez pas à l'écran? Ou finalement, est-ce qu'à force de l'observer, vous en savez un tout petit peu plus que nous tous sur le sentiment amoureux?
Non, je pense pas en savoir plus que... Quand on parle de candeur, c'est que je pense que le propre du désir et de l'amour nous fait perdre nos moyens. On est démunis. Donc c'est face à notre propre conscience et tout ça, on demeure dans cette candeur. On est perdu. L'amour nous perd. Alors nous perd dans les... Et c'est d'ailleurs ce dont le film aussi fait l'évocation de la passion. La passion nous perdent peut-être dans les cieux les plus délicieux, les plus divins, mais aussi dans les gouffres de souffrance les plus vertigineux. Donc comment en savoir plus? Non. Après, simplement, c'est que c'est un sujet pour le cinéma qui est merveilleux, puisque qui dit amour dit désir, et donc on peut tous se projeter dans quelqu'un qui désire, pour voir s'il va déjà avoir ce qu'il désire, s'il va pouvoir conserver ce qu'il désire. Il y a un côté, voilà, c'est un sujet de cinéma qui est fascinant.
L'art délicat de la séduction, Cécile de France, vous en savez plus?
Non, pas plus que mon réalisateur. Non, moi-même, j'observe tout ça un petit peu de loin. Je n'ai pas une vie démesurée comme les personnages la vivent, donc je suis spectatrice aussi.
Emmanuel Mouret, on l'évoquait, vous voilà de retour donc en terrain conquis, celui du triangle amoureux, de l'amour comme un jeu de dupes, au cœur des stratagèmes, après Caprice, Une autre vie, L'art d'aimer, ou encore Fais-moi plaisir.
Pour que notre couple aujourd'hui résiste, il faut être moderne. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu ailles coucher avec cette femme.
Mais qu'est-ce que tu dis?
Bah oui. Mieux vaut devancer les choses que d'être dépassé. Et puis pour moi, c'est la meilleure façon d'être trompé, sans être vraiment trompé, puisque je le sais à l'avance.
Mais je n'en ai pas envie.
Si, tu en as envie. Tu ne peux pas me l'avouer. Je comprends, c'est difficile à dire. Je t'en veux pas.
Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes?
Oui. D'inscrire notre couple dans une force de progrès.
Mais je vais quand même pas aller coucher avec cette fille pour te faire plaisir.
Écoute, Tu vois bien que je fais des efforts. Tu pourrais en faire un peu de ton côté, quand même.
Je veux bien. Mais j'irai pas.
Bon, faut que j'y aille. À demain, mon amour.
Je n'irai pas, hein.
Vous auriez pu, comme Robert Bresson, adapter cette histoire aujourd'hui, au temps où nous sommes. Pourquoi avoir choisi de laisser l'intrigue s'inscrire au 18e? Pourquoi fallait-il ce décor, ces robes à froufrou, le château, pour raconter cette histoire? Cette langue, là aussi, très particulière. Vous interrogez dans cet extrait de « Fais-moi plaisir » la question de la modernité, même du sentiment amoureux ou de ses pratiques. Est-ce que à l'époque actuelle, ça n'aurait pas pu marcher de la même manière?
Il y a beaucoup de réponses possibles au pourquoi. Je pense que d'abord il y a un plaisir peut-être du spectacle, du costume, et une plus grande liberté. Je pense que l'idée au départ de faire un film en costume, elle vient de mon producteur, en me disant mais peut-être on écoutera encore mieux tes textes dans un film en costume. Parce que justement, on accepte beaucoup plus finalement l'échange, l'argumentation, le développement lorsqu'on se situe dans le passé que de nos jours où parfois les échanges se font secs et succincts dans le cinéma. Je parle pas de la vie où je suis pas forcément d'accord comment souvent est représenté en tout cas nos échanges au cinéma. Et puis, je me suis aperçu en faisant le film, et notamment en montage, c'est qu'avec lorsqu'on est dans un film d'époque, on oublie notre actualité et on s'y plonge d'autant plus sentimentalement, beaucoup plus directement. Parfois, notre actualité, nos usages modernes font un parasite pour rentrer dans le cœur de l'intimité des personnages. Me semble-t-il. Et puis, il s'agit de... Le film propose l'exploration d'un fantasme, non pas amoureux, mais qui est celui de la vengeance. On fantasme tous de se venger à certains moments, mon fantasme qui s'épuise au bout de quelques secondes ou de quelques minutes, parce que on doit retourner au travail, ou parce qu'on a, voilà, on n'a pas le temps. Et c'est vrai que le milieu des... Sous l'ancien régime de la noblesse, c'est un milieu où on a tout le temps et tous les moyens
qui
sont donnés. Puis d'ailleurs, c'est un, on dit que c'est une époque qui est portée, en tout cas pour la noblesse, où tout le temps est donné à l'examen de soi. Et donc, en tout cas, tout le temps est donné à l'examen, on pourrait dire, de sa vengeance. D'où ce côté si brillant chez Madame la Pommerée.
On peut quand même se demander aussi si, dans le passé, puisque vous opérez ce retour en arrière pour nous laisser aussi plus le temps de percevoir ce qui se joue aujourd'hui, est-ce qu'il y avait plus de conventions sociales? Est-ce que l'amour était plus enfermé, plus étriqué dans ces règles et ces codes sociaux pour vous, Cécile de France, Emmanuel Mouret?
Est-ce
qu'on est vraiment plus libre d'aimer aujourd'hui?
Pour le coup, ce qui m'intéresse, c'est un sentiment, c'est que j'ai l'impression que la société était aussi clivée que nous. Et d'ailleurs, le 18e, justement après la Régence, le goût des plaisirs, ce goût pour un amour, on va dire, hédoniste, profane, est quelque chose qui est assez affirmé dans la réclame, puisque les libertins ne se cachaient pas, ils s'affichaient ouvertement. Et de notre côté, on va dire, une notion de l'amour plus religieuse, plus morale, ou plus sacrée d'une certaine manière, je pense que les gens étaient clivés comme on pouvait l'être par rapport à cette idée de l'amour et voire de la sexualité, qui demeure complètement aujourd'hui, où on est aussi clivé entre ce puritanisme et cet hédonisme tout craint.
Et c'est aussi un film féministe, vous l'évoquiez, Cécile de France, peut-être que vous n'aimez pas le terme, Emmanuel Mouret, mais il y a dans cette vengeance, cette revanche aussi d'une femme contre le destin ou le sort que les hommes souvent leur réservent. Il y a une réaction par rapport à cela, et elle le dit, si aucune âme juste ne tente de corriger les hommes, comment espérer une meilleure société? En cela, elle posait déjà les bases peut-être de la révolution actuelle, et ça fait écho, vous l'évoquiez aussi, aux liaisons dangereuse à ce moment où la marquise de Merteuil tente de reprendre le pouvoir par la domination de l'autre sexe, de venger son sexe aussi sur ce point. Il y a une résonance, on l'évoquait. Est-ce qu'on peut interroger aussi la question du déterminisme ou de la fatalité que Diderot travaille dans son texte, Jacques le Fataliste? Tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas est écrit là-haut, Emmanuel Mouret.
Oui, alors si on parle de déterminisme et de la fatalité, ce qui est très beau justement dans ce texte, c'est que les personnages ne sont pas déterminés. Il y a quelque chose que je trouve très beau, et ce que vous dites, ça me fait penser par à ce qui arrive sur la fin. On ne veut pas dévoiler le film, ce qui arrive au marquis. C'est que le film va au-delà, justement, du déterminisme social. Et c'est là où le film n'est pas cynique, d'une certaine manière. Donc, oui, un certain déterminisme joue, mais le film, en tout cas le récit de Diderot, propose quelque chose d'autre. Une forme de conversion, de rédemption. Et d'ailleurs, à une époque, parce qu'on parlait de féminisme, de cette actualité, où partout... on cherche des réglementations, des pare-feux et tout ça. Il y a dans ce récit, non pas justement une vue morale dans le sens où on met des limites, mais dans le sens où on pose un exemple autre. Voilà. Et l'attitude du marquis de Zarcy, sur la fin, voilà. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve très beau et très émouvant. Et qui est, d'une certaine manière, va dans une direction féministe.
Sur ces émotions universelles, ces sentiments, si on prend celui de la vengeance, celle qu'exerce Electre, que vous avez interprété sur scène, Cécile de France, dans une mise en scène de Claudia Stavisky, cette vengeance qu'elle exerce, au contraire, est-ce qu'elle est mise en œuvre très différemment ici, au 18e, à travers le personnage que vous interprétez?
Oula, c'est vieux. En tout cas, ce sont des femmes qui prennent leur vie en main, qui reprennent les rênes après en avoir été dépossédées. Donc, bon, là, je suis plus du tout dans Elec, donc c'est difficile. C'est une colle que vous me posez, mais.
Est-ce qu'il y a des bonnes vengeances et des mauvaises vengeances?
Mais c'est ce que dit Emmanuel souvent, c'est que dans la littérature, la fiction, le cinéma, etc., on peut s'autoriser d'assister à la vengeance. Dans la vraie vie, la loi condamne toute personne qui fait du mal en se vengeant notamment. Alors que, voilà, dans la fiction, c'est autorisé parce qu'on aime les gens qui aiment, en fait. Et que la vengeance... emmène notre imaginaire et là où notre surmoi va nous dire stop, et ben voilà, là les personnages des fictions peuvent se le permettre. Et ça, c'est assez jouissif, je pense.
Et sans dévoiler la fin, on pourrait dire aussi que s'il y a des bonnes vengeances, même si le marquis est la victime de cette vengeance, à la fin, il en est très reconnaissant, oui, de cette vengeance.
Donc, ouais, vous dites presque la fin, on s'arrête là, l'émission se termine aussi, ça tombe bien. Mademoiselle de Jonquière, entre le vice et la vertu, on n'a pas à choisir, c'est l'avantage de la fiction. Un film d'Emmanuel Mouret avec vous, Cécile de France, avec Édouard Baird aussi, et bien d'autres. Merci beaucoup d'être passé autour de cette grande table, le film sera en salle ce mercredi.